midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. J'ai une heure, comme chaque jour, pour vous montrer que oui, la France bouge et que c'est vous les acteurs de ce changement. Ce lundi débute la semaine contre le gâchis des talents avec l'ADI. L'occasion de vous prouver que oui, entreprendre en France, c'est possible et que tout le monde peut se lancer. Elle existe depuis 1969, mais des galons et des dentelles sur nos accessoires. La société Scholtes de fabrication et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis après les révélations sur la toxicité de certaines couches, on a voulu savoir s'il y avait des solutions et on a trouvé Amac pour les fesses de nos bébés. C'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez, on vous attend. Décrochez votre téléphone pour composer le numéro du standard d'Europe 1 dès maintenant pour être avec nous tout à l'heure, car aujourd'hui débute Anissa la semaine contre le gâchis des talents.
Et vous avez peut-être rêvé toute votre vie de devenir entrepreneur, mais vous avez des réticences, des questions, et bien venez les poser aux invités de Raphaël Duchemin, car aujourd'hui tout est possible au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Et vous allez voir qu'il est possible de rendre l'entrepreneuriat accessible à tous, notamment nos invités s'y emploient. Et pour les accueillir à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayag est là. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Notre coach aujourd'hui, créatrice, fondatrice du club des Chief Happiness Officers, c'est Catherine Testa qui endosse le rôle du coach. Bonjour Catherine.
Bonjour Raphaël.
Cette semaine contre le gâchis des talents, c'est la toute première fois qu'elle a lieu avec des événements qui sont organisés pour les créateurs d'entreprises. Bonjour Laure Caussière-Acoster.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la directrice générale adjointe de l'ADI. L'ADI qui œuvre depuis 1999. La création, le credo, c'était plutôt d'aider ceux qui voulaient se lancer. D'abord, peut-être avec le microcrédit, hein, dans l'idée générale, la philosophie générale de l'ADI.
Oui, parce que de très nombreux créateurs d'entreprises aujourd'hui n'ont pas accès au crédit bancaire et se retrouvent empêchés de se lancer. Et donc depuis maintenant plus de 30 ans, l'ADI très concrètement sur le terrain leur propose un appui à travers un crédit, mais aussi un accompagnement professionnel et personnalisé.
Alors vous vous êtes aperçu qu'effectivement, si l'argent était un frein, ça n'était pas le seul et qu'il y avait finalement beaucoup de Français qui n'osent pas forcément parce qu'ils ont des idées reçues sur l'entrepreneuriat, sur « ça n'est pas pour moi, j'ai peur de me lancer, c'est forcément pour les autres, même si j'ai des idées, personne ne va vouloir me suivre ». C'est un peu ça finalement.
C'est tout à fait ça, et l'ADI a récemment lancé une grande enquête auprès de plus de 2000 Français. Et ce qu'on constate, c'est qu'un Français sur trois aimerait bien devenir entrepreneur, mais presque 40% d'entre eux vont se retrouver empêchés par un certain nombre d'idées reçues ou de préjugés sur la création d'entreprise.
Alors quelles sont-elles justement? Justement, ces idées reçues, c'est on prête forcément qu'aux riches, par exemple.
C'est la toute première, effectivement, cet adage, on ne prête qu'aux riches. Et si je n'ai pas moi-même un petit peu d'épargne à mettre dans mon projet, eh bien, je ne vais pas arriver à trouver un financement bancaire pour me lancer. Et puis, le deuxième, le plus répandu aussi, c'est que la création d'entreprise est un processus complexe, lourd, plein de formalités.
La paperasse.
Ça fait peur.
Oui. Il faut des relations pour créer son entreprise.
C'est en tout cas ce que pensent les gens. Alors, sans savoir précisément ce qu'on met derrière le mot « relation », mais qu'en tout cas, il faut être appuyé, avoir des gens haut placés pour soutenir un projet et que se lancer tout seul, c'est trop risqué.
Une fois qu'on a fait ce constat et qu'on a réussi à battre en brèche toutes ces idées reçues, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on aide les gens qui ont des idées, des bonnes idées à les développer?
Eh bien, avec une aide concrète sur le terrain, en levant ces deux freins, parce que ce sont des idées reçues, mais il y a une forme aussi de réalité derrière ces idées reçues. Nous, on lève concrètement ces freins en apportant une solution de crédit, et ça même à des personnes qui n'ont pas ce qu'on appelle un apport personnel, c'est-à-dire un petit peu d'épargne à investir dans leur projet. Et puis, en tentant de rendre simple cet environnement, malgré tout, un peu complexe de la création d'entreprise.
C'est-à-dire que si demain, je viens vous voir à l'ADI avec un projet qui me tient à cœur, mais que je n'ai pas les financements, j'ai simplement peut-être 100 euros à mettre pour démarrer mon entreprise, vous allez peut-être m'aider à trouver des financements.
Bien sûr.
Vous allez faire quoi?
Eh bien, on va vous aider à trouver le financement de l'ADI, hein, puisque nous, on peut financer jusqu'à 10 000 euros.
Vous allez emprunter pour moi?
Absolument.
Et c'est vous qui allez me prêter l'argent?
Et on va pouvoir vous prêter cet argent jusqu'à 10 000 euros. On va étudier avec vous votre projet. Là où vous avez des incertitudes, des choses qui vous paraissent compliquées, on va regarder ça avec vous. Vous aider par exemple à choisir la forme juridique de votre entreprise, vous aider à bâtir justement quel est le montant minimal, calculer le montant minimal avec lequel il vous faudra vous lancer. Et puis concrètement, à l'issue de cette étude, on va pouvoir vous accorder le prêt et qui va vous permettre de vous lancer.
Vous allez faire du sur-mesure hein, en quelque sorte. Elisabeth, il y a des aides différentes de celles que peut amener l'ADI justement pour nous permettre de nous lancer quand on a envie de démarrer une entreprise.
Bah, la première aide, c'est d'abord c'est son épargne personnelle, hein, parce qu'on va aller dans le plus basique, ou aller emprunter à l'entourage familial et amical. Mais vous avez aussi des prêts spécifiques. Vous avez les fonds de garantie, hein, ces fonds qui apportent leur caution aux banques auprès desquelles on a contracté un prêt. Le principal, on le connaît, il est géré par la BPI, la Banque publique d'investissement. Vous avez les prêts spécifiques, comme l'a dit, hein, qui est présente ici. Et l'État met aussi à la disposition des aides, comme par exemple les fonds d'intervention, notamment pour les services, l'artisanat et le commerce. Hein, c'est le FISAC. Vous avez la prime d'aménagement du territoire et les dispositifs pour toutes les zones d'aide dans les régions. Et vous avez même des dotations pour les jeunes agriculteurs.
Que dit notre coach ?
Alors, vous avez évoqué exister depuis environ 30 ans. Comment est-ce qu'on vous trouve sur le territoire ? Vous avez des bureaux ? Comment est-ce qu'on va jusqu'à vous si on veut vraiment rencontrer quelqu'un ?
Alors, l'ADI est présente sur tout le territoire français à travers 140 implantations, 140 bureaux. Il faut savoir qu'on est présent en métropole, mais aussi dans l'ensemble des Outre-mer. Donc, on est un acteur de proximité pour les personnes qui nous cherchent.
Combien de personnes est-ce que vous avez aidé ? Combien de personnes ont pu bénéficier à la fois du microcrédit et puis de vos conseils aujourd'hui ?
Alors, l'année dernière, nous avons aidé 16 000 créateurs à se lancer. Et je tiens à insister sur le fait que c'est une réalité très diverse parce que parmi les idées reçues, sur lesquels nous avons récemment enquêté, il y a cette idée que l'entrepreneur, le portrait type de l'entrepreneur, ce serait quelqu'un, un homme déjà, entre 25 et 50 ans, et puis diplômé. Or nous, la réalité qu'on observe sur le terrain, c'est 16 000 entrepreneurs qu'on a aidés l'année dernière, mais ce sont aussi des femmes, presque une personne sur deux, ce sont aussi des jeunes, une personne sur cinq qu'on a aidés à moins de 30 ans. Ce sont des personnes qui habitent aussi bien les zones rurales que les quartiers politiques de la ville. Donc c'est une réalité, c'est en fait la création d'entreprise a 1000 visages et on voudrait sortir du préjugé qu'il y a un seul visage pour la création d'entreprise.
Et vous allez lancer un hashtag, hein, je le précise, cette semaine, c'est parce que ça commence aujourd'hui mais ça va durer jusqu'au 1er février. Hashtag non au gâchis des talents.
Il
faut aller voir parce qu'on va trouver des choses sur ce hashtag, on va trouver des expériences, des gens qui vont partager.
Absolument, des témoignages, puisqu'on incite beaucoup nos créateurs à témoigner parce que la force de l'exemple, c'est ça aussi qui permet de lever les préjugés. Et toute cette semaine, sur le terrain, nous organisons plus de 300 événements. Et également, vous nous retrouvez tous les jours sur le Facebook de l'ADI à
13h. Avec un de nos coachs,
Riyad Boulanoir, qui va répondre aux questions, va être interviewé par des clients de l'ADI justement sur les freins à la création d'entreprise.
On reste ensemble sur Europe 1 et on continue à parler de cette volonté d'entreprendre aujourd'hui en France.
Il est 13h08.
Europe 1.
Et vous allez voir qu'entreprendre, c'est aussi possible en dehors de nos grandes villes. C'est dans les territoires isolés que les déterminés aident les talents à s'épanouir. A tout de suite sur Europe 1.
L'entrepreneuriat, c'est possible et c'est accessible à tous. On en parle aujourd'hui jusqu'à 14h. La France bouge dans ce domaine. Si vous avez des questions, vous avez envie de vous lancer, vous avez des réticences, eh bien n'hésitez pas, venez poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin jusqu'à 14h. 39-21, c'est le standard. Et puis on lit également vos messages et vos témoignages sur les réseaux sociaux. Hashtag Europe 1, Raphaël.
Il y a beaucoup de freins à l'entrepreneuriat et j'entends déjà derrière la radio certains d'entre vous qui nous écoutent dire « Oui, voilà, les Parisiens qui croient qu'entreprendre, c'est facile, forcément, ils sont dans la capitale, ils ont tout à portée de main. » Eh bien, détrompez-vous. Bonjour Moussa Camara.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur des Déterminés, une association que vous avez créée véritablement en 2015. Ça faisait longtemps que vous y pensiez, justement pour développer l'envie d'entreprendre dans ce que vous appelez les territoires isolés, c'est-à-dire le monde rural, les banlieues. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous lancer, vous, dans cette aventure ?
Parce que je pense que c'est important et je crois beaucoup à l'entrepreneuriat. Et je pense que l'entrepreneuriat est la meilleure façon de pouvoir s'épanouir personnellement. Et je pense que voilà, ça peut créer aussi une dynamique, aussi ça peut servir à tous, quoi.
Ça veut dire que vous avez vécu, vous, cette situation en tant que jeune entrepreneur ?
Moi, j'ai vécu cette situation il y a à peu près 10 ans, quand j'ai voulu lancer ma première boîte. n'avais pas forcément d'exemple d'entrepreneur autour de moi, ni dans ma famille, ni dans mon entourage. Et j'ai eu une opportunité de créer ma première entreprise. Par contre, j'aurais pu me poser plusieurs questions de ne pas y aller. Je ne me sentais pas forcément légitime.
Vous n'aviez pas le réseau dont on parlait tout à l'heure.
Je n'avais pas forcément la connaissance du réseau qui existait autour de nous. Et finalement, je me suis lancé parce que j'étais déterminé et j'avais rien à perdre. Et
comme j'avais rien à perdre. D'où le nom de l'association, les déterminés.
D'où le nom de l'association, parce que c'est ce qui est une qualité et ce qui caractérise vraiment l'entrepreneur, c'est sa détermination, son travail, sa persévérance à aller au bout, même quand on lui dit que c'est pas possible. Bah finalement, il croit à son projet, il se lève tous les matins pour essayer de faire en sorte que son entreprise puisse réussir. Et moi, j'étais dans ce cas-là et. Finalement, je me suis lancé quand même. J'ai commis quelques erreurs des débuts. C'est bien parce que ça renforce et tout. Mais c'est des erreurs aussi que j'aurais pu éviter. J'aurais pu gagner du temps. J'aurais pu ne pas perdre de l'argent là où j'en ai perdu à un moment donné. Parce que je n'étais pas forcément accompagné et structuré.
Donc c'est cet accompagnement que vous avez voulu offrir à ceux qui aujourd'hui veulent se lancer. Qu'est-ce que vous faites ? Vous les prenez par la main ? Vous les aidez ?
On ne prend personne par la main aujourd'hui parce qu'un entrepreneur, il n'a pas besoin de comprendre par la main. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir démocratiser l'entrepreneuriat, pas vendre du rêve à tous en disant que l'entrepreneuriat est accessible pour tous. Ce n'est pas vrai. Certains ne seront jamais entrepreneurs et n'auront pas cette capacité d'entreprendre.
Et vous leur dites s'ils viennent vous voir avec un projet ?
On leur dit clairement, mais en étant bienveillant, parfois sur certains entrepreneurs, où peut-être que l'entrepreneuriat n'est pas la meilleure solution pour toi. Et l'idée, ce n'est pas de les mettre en difficulté. Parce que surtout quand déjà on vient de territoires fragilisés parfois, c'est compliqué de pouvoir se projeter dans un projet parce que parfois on a tendance à manquer un peu de confiance en soi. Ce que nous on veut faire avec les déterminés, c'est vraiment faire en sorte que les entrepreneurs qui puissent venir nous voir, c'est de leur permettre de commencer dans les meilleures conditions et d'être de la meilleure manière pour éviter un certain nombre d'erreurs. Des erreurs, ils en commettront quoi qu'il arrive parce que ça fait partie de la vie et le parcours d'un entrepreneur. Mais si on peut éviter certaines erreurs, bah là, nous, on est là pour ça.
Catherine, la coach.
Quand on entreprend, on est souvent très seul. On est face à ses doutes et face aux doutes de notre entourage. Vous permettez aux gens de se retrouver entre eux parce que c'est ça aussi qui manque, c'est de se dire, je suis comme toi et moi aussi, j'y vais.
Exactement, parce que nous, en fait, avec les déterminés, on lance une formation qui est gratuite, qui dure à peu près 6 mois avec 7 semaines intensives. Et c'est des promotions de 15 personnes. On reçoit à peu près en moyenne entre 200 à 300 candidatures pour sélectionner une quinzaine de personnes qu'on va accompagner sur de la durée. Et le fait de se retrouver avec des profils qui sont aussi un peu dans l'état d'avancement que leur projet, ça donne de la force. C'est une synergie qui est créée, une intelligence collective qui naît et vraiment une solidarité et des valeurs d'entraide qu'il y a entre les entrepreneurs qu'on accompagne. Et ça, c'est fédérateur parce que ça crée vraiment une cohésion pour pouvoir faire en sorte que chacun d'entre eux, même s'ils sont sur des projets différents, d'être concentrés et impliqués dans leur projet.
Ils vont se retrouver en tout cas sur cette motivation qui est la leur. Vous avez en 3 ans et demi, j'ai regardé les chiffres, accompagné 150 personnes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder le résultat. 56 entreprises créées, 50 en cours de création et une trentaine de reprises d'emploi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, au final, se disent... C'est pas pour moi, j'ai fait, je suis allée au bout de ma démarche, mais je préfère retourner dans une entreprise. Il y a une prise de conscience.
Voilà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que déjà, ils vont tous au bout de la formation. Des 6 mois, ils vont tous au bout. Et quoi qu'il arrive, ils en sortent tous avec un bénéfice de compétences, de connaissances qu'ils ont appris pendant cette formation-là. Et après, voilà, en 3 ans, presque 4 ans, on a pu développer... On a pu expérimenter le projet, des déterminés, accompagner, former des entrepreneurs. Aujourd'hui, il y en a 56, mais voilà, dans les 56, c'est pas évident pour tous. Certains, ils arrivent à vivre de leur business. Ils arrivent à recruter derrière, avoir une croissance et un développement. D'autres sont au démarrage et il faut pouvoir encore les accompagner. Je pense que des réseaux, comme l'a dit, sont importants parce qu'ils peuvent aussi mettre... le premier apport financier.
L'argent, oui.
Et ça, c'est intéressant pour des entrepreneurs qui n'ont pas forcément les moyens. Et derrière, et après, il y a tout l'écosystème qui se crée et qui leur permet aussi d'être incubés parfois dans des grands incubateurs. dans lequel ils n'auront pas eu la chance d'y aller avant. Quoi.
Et il y en a de plus en plus des incubateurs. Elisabeth, justement, je voudrais qu'on regarde en région, c'est organisé parce qu'on parlait tout à l'heure des grandes villes, on parlait des fameux territoires isolés. Justement, comment ça se passe en dehors des grandes villes?
Alors, ça se passe localement. Par exemple, vous avez les-aide.fr ou aide-entreprise.fr. Eux, ils proposent une recherche par critères géographiques. Par exemple, sur lesaides.fr, vous avez un agenda des appels à projets par région. Et souvent, pour réussir, un projet doit s'ancrer localement. Et chaque région peut mettre en place des dispositifs spéciaux. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, l'année dernière, près de 50 000 nouvelles entreprises ont été créées. Une aide là-bas s'adresse, par exemple, il y a plusieurs aides, mais par exemple, une aux TPE, aux toutes petites entreprises immatriculées récemment, moins de 6 mois, sous la forme d'un accompagnement de 4 000 à 10 000 euros de subvention. Ou, à Aix-Marseille-Provence, là, ce ne sont pas forcément des aides financières directes, mais des facilités sur les conditions d'implantation. Ils agissent sur le foncier, notamment, parce que c'est souvent compliqué de pouvoir s'y installer, sur les conditions de vie, sur le développement de la future entreprise.
On reste ensemble, on continue à parler entrepreneuriat aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1.
Et il n'y a pas d'âge pour avoir envie d'entreprendre. C'est aux jeunes que s'adresse l'association MOVJ pour leur mettre en quelque sorte le pied à l'étrier et aussi pour les accompagner dans leurs premières années. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec cette question: comment rendre accessible l'entreprise à tous? Si vous voulez vous lancer, c'est possible et vous pouvez poser vos questions aujourd'hui aux invités de Raphaël Duchemin. Ça se passe au 39-21, c'est le standard d'Europe 1. On lit également toutes vos questions et vos réactions sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Quand on est au lycée, à la fac, on a souvent des projets plein la tête et pas forcément toujours les codes pour savoir par où commencer pour se lancer. Mais c'est souvent après, une fois que l'entreprise a démarré, qu'on se retrouve tout seul. Et vous le disiez très bien. Bonjour Bénédicte Sanson.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé MOVJ, M-O-O-V-J-E-E, je le précise, il y a 10 ans, hein, c'est ça?
Il y a 10 ans, exactement.
Pour justement accompagner tous ces jeunes dans leur aventure d'entrepreneur. À l'époque, il n'y avait rien pour eux?
Il n'y avait effectivement rien qui soit dédié aux jeunes. C'était, donc nous avons lancé le 16 novembre 2009 le MOVJ. C'était le jour où l'appel à projet pour la création des pôles étudiants entrepreneurs a été lancé. L'ancêtre des pépites, hein, les pôles qui aujourd'hui s'occupent dans les facs, les universités, les écoles de développer l'entrepreneuriat. Et effectivement, il n'existait rien. Et nous avions fait un diagnostic avec Dominique Restino qui avait eu cette idée-là au démarrage.
Président.
Qui est le président fondateur du MOVJ. Je l'ai rejoint dès le début de l'aventure, quand c'était encore dans sa tête. Nous avions fait ce constat-là qu'il n'existait rien pour les jeunes et pour autant être très jeune et entreprendre, ben, ça n'est pas si simple que ça, parce qu'on ne se sent pas forcément légitime et pour autant on sait qu'on ferait des choses très pertinentes face à une génération qui ne maîtrisait pas la nouvelle économie, qui ne maîtrisait pas les enjeux écologiques, qui ne maîtrisait pas les enjeux sociétaux.
Alors, on a parlé argent, on a parlé de l'accompagnement, en tout cas de la formation. Vous intervenez, j'ai envie de dire, un peu après aussi, parce que c'est important de finalement prendre le jeune entrepreneur par la main et de le guider dans ses débuts de vie entrepreneuriale. Je crois que c'est en allant au Québec que Dominique a découvert ce qu'on appelle le mentorat.
C'est ça. Alors justement, dans ce constat, on s'est rendu compte que antécréation, il y avait énormément de choses. Post-création, il y avait beaucoup moins de choses, et ce qui existait, c'était essentiellement du financement. Et quand on n'a pas besoin de financement, eh bien, on trouve pratiquement personne pour nous accompagner. Et Dominique Restino est parti au Québec dans le cadre de ses missions de la Chambre de commerce, puisqu'il est aussi président de la Chambre de commerce de Paris. Et c'est là qu'il a découvert le mentorat pour entrepreneurs.
Alors qu'est-ce que c'est?
Oui. J'allais dire, on le dit ensemble. Qu'est-ce que c'est que le mentorat pour entrepreneurs? C'est un entrepreneur bénévole, expérimenté, qui a déjà vécu ce que vous allez vivre et qui chemine à vos côtés pour partager avec vous son expérience.
Ouais, qui va voir les choses trappes.
Vous ouvrir, voilà, le champ des possibles, mais qui va ne surtout pas vous dire ce que vous avez à faire parce que le contexte est différent, vous êtes vous-même différente et chaque entreprise est différente en fonction de celui qui le porte, mais qui va vous permettre de vous rassurer en vous identifiant un certain nombre de questions, de choses trappes, comme vous dites, et qui va vous permettre de trouver en vous les bonnes raisons et les bonnes solution, pardon, et de trouver en vous votre vision, de la construire et d'avancer plus sereinement.
Et alors, comment est-ce que vous faites ? Vous allez chercher ces mentors dans les grands groupes ? Il faut qu'ils soient volontaires aussi pour accompagner les jeunes.
Alors, je vous ai bien dit, un mentor, c'est un entrepreneur expérimenté, bénévole. Donc, ça n'est surtout pas dans les grands groupes, même si on a beaucoup de respect pour les dirigeants de grands groupes. S'ils n'ont pas vécu la vie d'entrepreneur, eh bien, ils ne seront pas de bons mentors. Parce que
On a des patrons de TPE, de PME qui ont...
Oui, des patrons de TPE, de PME, d'entreprises qui ont connu un très fort potentiel. Je peux vous citer par exemple Bernard Bourigeaud, le fondateur d'Atos Origine, eh bien, qui est mentor au MOVJ, puisqu'on a eu il y a 2 ans un grand lauréat de notre prix annuel qui, à 25 ans, après avoir eu une formation Bac plus 2, a lancé une entreprise et en un an et demi, il avait déjà 50 collaborateurs, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un entrepreneur qui avait beau être très jeune, mais gérer la croissance quand on est très jeune, c'est très compliqué.
En 10 ans, je crois que vous avez accompagné 1300 jeunes. Que dit notre coach Catherine Testa ?
Qu'est-ce que ça veut dire être jeune ? Et pourquoi ne pas accompagner des seniors qui doivent se poser exactement les mêmes questions aussi ?
Alors, être jeune, c'est... dans notre définition, avoir entre 18 et 30 ans. On est dans une phase de vie, c'est vraiment le chemin initiatique pour aller de la vie étudiante à une vie professionnelle. Et ces jeunes se posent beaucoup de questions et qu'ils se retrouvent entre eux, ça leur permet de passer de façon beaucoup plus douce et beaucoup plus chaleureuse aussi cette transition de la vie d'étudiant.
On est sur les 18-30 ans,
c'est ça ? On est vraiment sur les 18-30 ans. Et de pouvoir fonctionner en communauté, c'était extrêmement important parce qu'entre eux, ils partagent énormément de choses. C'est ce qu'on appelle la MOVJ Family. Ils nous appellent un petit peu papa, maman. C'est vraiment important pour eux. Ouais, mais c'est aussi bien pour les plus âgés, mais on pourra en reparler.
Elisabeth, il y a aussi, il ne faut pas les oublier, des dispositifs pour les demandeurs d'emploi.
Oui, dans les demandeurs d'emploi, il y a des jeunes et des moins jeunes. Et si vous êtes inscrit auprès de Pôle emploi, eh bien, on peut utiliser les allocations chômage pour financer le lancement de l'entreprise. Ça se passe dans le cadre de l'ARC, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. 45% du montant global des allocations qui restent sont mobilisées. Elles sont versées en 2 fois. Et si on a besoin d'une somme de départ, eh bien on peut compter, on peut, pour rémunérer l'activité, on peut aussi les utiliser.
On continue à dire stop au gâchis des talents aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Et on vous attend, 39-21. Êtes-vous prêt à vous lancer ? Avez-vous des freins ? Venez les partager avec nous. C'est aujourd'hui et c'est la France qui bouge.
Créer son entreprise et être aidé pour cela, voilà de quoi on parle aujourd'hui. La France bouge dans ce domaine. Si vous avez envie de vous lancer, c'est possible. Venez poser vos questions. 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Elisabeth Assayag est avec moi, tout comme notre coach. Aujourd'hui, c'est Catherine Testa. Nos invités, Laure Coussira-Coster, directrice générale adjointe de l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. Moussa Camara, fondateur et président des Déterminés. Et Bénédicte Sanson, secrétaire générale de l'association MOVJ, Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. J'ai envie de vous demander tout simplement si le regard sur l'entreprise a changé. Parce que ces jeunes-là, maintenant, qui se lancent aujourd'hui, est-ce qu'ils se seraient lancés de la même manière il y a 5 ou 10 ans, ou peut-être un peu plus? J'avais le sentiment que le patron, ce n'était pas forcément ce qu'on avait envie de devenir.
Bénédicte Sanson. C'est vrai que... Effectivement, c'est vrai que le regard sur l'entreprise a vraiment changé. Mais ce qui a changé, c'est vraiment les jeunes qui ont envie d'apporter des choses à l'économie. Ils ont pu faire le constat de tout ce qui dysfonctionne et ils entreprennent pour transformer, pour réparer la société.
Peut-être
c'est
aussi
ça
par peur du chômage, on crée son propre emploi.
On ne crée pas par peur du chômage, on crée parce qu'on a envie de créer quelque chose.
Donc c'est du positif et pas du
négatif.
C'est
du positif.
Tout à fait. Dans les résultats de l'enquête que nous venons de faire, ce sont 60% des jeunes de moins de 24 ans qui ont un projet de création d'entreprise, qui souhaitent se lancer.
Moussa ?
Énormément. C'est de l'entrepreneuriat par conviction aujourd'hui. Les jeunes veulent apporter plus de sens à leur vie. Et c'est vrai que parfois, dans le monde de l'entreprise tel qu'il est aujourd'hui, ils s'y retrouvent moins. Et c'est vrai que parfois, tenter l'aventure entrepreneuriale, ça peut-être être une source d'épanouissement pour ces jeunes-là.
On a Hervé qui nous a appelé au 39-21, Hervé de Marseille, qui nous dit « Les prêts, c'est très bien, mais nous créons de la dette avant d'avoir commencé. Il y a en général une entreprise sur 3 qui met la clé sous la porte et qui n'arrive pas à dépasser le cap des 3 ans. Cela vous aide pour démarrer, mais vous démarrez avec de la dette. » Alors, qu'est-ce qu'on répond à Hervé ? C'est un constat qui est aussi une réalité.
C'est une façon de voir l'apport financier. Démarrer avec un prêt, c'est surtout démarrer avec de l'argent qui permet de faire un investissement. Et sans cet investissement, dans un grand nombre de cas, l'entreprise ne peut pas se lancer. Donc c'est avant tout mettre le pied à l'étrier de tous ces gens qui ont une idée, des talents, mais qui n'ont pas cet argent à investir.
Et il faut combien aujourd'hui pour lancer un projet? Ça dépend du projet, ça dépend de
ça dépend
la dimension qu'on veut lui donner.
Bien évidemment du projet. Nous à l'ADI,
100 euros, 500 euros peuvent suffire.
Absolument, absolument. Nous en moyenne à l'ADI l'année dernière, les créateurs d'entreprises ont emprunté 4400 euros pour lancer leur projet. Donc vous voyez qu'on reste sur des petits investissements.
On parlait tout à l'heure des difficultés qui surviennent les premières années. C'est vrai qu'il y a aussi toutes les charges qui vont tomber quand on est entrepreneur. Est-ce que ça, c'est quelque chose que les jeunes ont en tête quand ils créent leur propre entreprise?
C'est quelque chose qu'ils ne calculent pas forcément, non. La preuve même, c'est que quand ils font leur premier compte d'exploitation prévisionnel, ils oublient leur salaire. Donc, ils n'y vont pas pour gagner de l'argent. Et petit à petit, ils apprennent ça. Et nous, ce qu'on leur dit beaucoup, c'est voir grand, commencer petit, avant d'aller chercher de l'argent. Commencez par vous dire comment vous pourriez faire sans. Et ça, ils l'intègrent. Petit à petit, ils se calent et ils grandissent. Ce qu'on peut savoir, ce que l'on sait en tout cas, c'est que le projet qu'ils portent sera différent à 95% du projet qu'ils vont développer. Mais ça fait partie des choses qu'il faut savoir apprendre. Ça, apprendre à bouger, à ne pas rester sur ses convictions de départ.
Je vous vois acquiescer, Moussa. C'est vrai que le système D, c'est quelque chose qui marche bien aussi.
C'est ce qui marche le mieux, en fait. Nous, avant même de qu'ils arrivent à la finalisation de leur projet, on leur dit de tester au plus vite, en fait, leur projet. Parce que c'est en testant leur projet qu'ils vont se rendre compte ce qu'il faut changer. Est-ce qu'il y a vraiment un marché dans ce qu'ils veulent se lancer? Est-ce qu'il y a le portefeuille client? Ils l'ont déjà. Avant de penser grand. Donc, nous, les formations qu'on propose, c'est un peu théorie, mais beaucoup de terrain, pour qu'ils puissent se rendre compte de la réalité. Parce qu'un projet, quand on l'a en tête au départ, on idéalise toujours, on ne voit pas forcément les problèmes, on voit uniquement des solutions. Et c'est vrai que le fait de le tester, on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire évoluer ou à changer, ou à améliorer.
La coach,
comment est-ce qu'on sait qu'on a les caractéristiques pour être un bon entrepreneur? Est-ce que vous en avez identifié?
Oui,
exactement.
Alors moi, la première chose que je dirais, c'est aller se confronter à d'autres entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'au MoveJ, parmi nos actions, il y a un grand prix annuel et on les incite vivement à postuler. Il y en a 99% qui ne vont pas gagner, mais ils seront invités à une remise des prix. Une remise des prix où il y aura 800 autres jeunes entrepreneurs. Ils pourront discuter et ils pourront voir en échangeant avec eux sur leur vécu d'entrepreneur s'ils sont faits pour ça ou pas.
Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie d'entreprendre et surtout de dire stop au gâchis des talents. C'est la semaine pour organiser avec l'ADI. Merci à tous d'être venus nous parler aujourd'hui. Que ce soit le MoveJ, les Déterminés ou l'ADI, bien sûr. Merci d'avoir été sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1.
Restez avec nous dans une minute. On vous emmène découvrir la société Scholtes de fabrication. C'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et il est temps, Raphaël, maintenant de découvrir l'entreprise qui va bien de ce lundi.
Et cette entreprise, c'est la société Scholtes de fabrication. Ça ne vous dit rien comme ça et pourtant vous allez voir que ce qu'elle fabrique, vous connaissez forcément. Bonjour Olivier Verriel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui dirigez cette entreprise qui date de 1969. Au départ, on va le dire, c'est une fabrique de lacets, des lacets qu'on tresse dans les ateliers, c'est ça?
Tout à fait. Alors, on les tresse avec des machines, qu'on en tresse plusieurs kilomètres par mois. Et ensuite, dans les années après, on a commencé à faire des sangles. Donc, les sangles, ça sert à beaucoup de choses. Ça peut servir à faire pour les sacs, pour tenir votre sac. Vous pouvez l'avoir en cuir, mais aussi en tissage. Et puis aussi pour faire des harnais de sécurité. Ça peut servir pour des bords de chaussures. Quelquefois, vous avez des sangles pour les tire-bottes, qu'on appelle les tire-bottes à l'arrière des chaussures de ski ou de sport.
Et alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au départ, elle se monte, cette société, parce qu'il y a un besoin. Il y a la famille qui fait les chaussures Eram, qui est dans la même région et qui a ce besoin de fameux lacets.
Oui, tout à fait. À l'origine de cette usine, ce sont les fers chauds. C'est une famille qui faisait du linge de maison en lin. C'était la spécialité de Cholet. Et tout ça, bon, ça tombe. Ce n'est pas la France qui bouge, là. C'est la France qui tombe.
Il y a des choses qui disparaissent, voilà. Et qui sont remplacées par d'autres.
Ça montre cette capacité de cette région à rebondir. Et là, cette famille, avec un esprit d'entrepreneur, va effectivement rencontrer la famille qui possède Eram, et toujours ouais. d'ailleurs, c'est toujours la même. Et c'est eux qui vont leur demander de faire des lacets. Et ça démarre comme ça. Et ça va durer comme ça, en se diversifiant, donc en ajoutant le tissage pour
oui,
faire les sangles.
Oui, le tissage, effectivement, oui.
Et puis ça, un parcours un petit peu agité, hein, dans la fin des années 2000.
Et là, en 2013, non, vous arrivez avant 2013.
Avant 2002, il y a quelqu'un d'assez charismatique qui dirige et qui décède brutalement, qui s'appelle Jacques Ferchaud. Et c'est son épouse qui était une ouvrière, je le mentionne, parce que voilà, une femme entrepreneuse. Qui n'avait pas a priori les bagages et qui
avait le savoir-faire.
Ouais. Et puis surtout qui a eu l'intuition, qui a su diriger la société, la maintenir. Et elle me la revend, elle part en retraite tout simplement en 2010. Donc 2010, je rachète la société.
Et alors vous allez récupérer, moi ça m'a passionné, vous avez récupéré des métiers à tisser en bois à Saint-Chamond, en Haute-Loire, ouais. Pour assurer là encore la transmission des savoir-faire. Pareil avec des métiers de dentelle, 3 ans plus tard, au Puy-en-Velay. Oui. C'est important hein, de garder ce savoir-faire local, là, bien présent.
Alors il y a un très beau label d'État. Hein, qui s'appelle Entreprise du patrimoine vivant. Donc, nous sommes labellisés. Oui. Alors, je le mentionne là parce que la rencontre de Guy Camus, donc le monsieur qui, avec passion, avait repris l'entreprise de son papa, qui date de 1833, qui s'appelle Guy Camus Tressage. Donc, on en a racheté avec 1000, on a réussi à les compter, enfin, 1061 métiers bois.
Il est venu former les gens.
Il continue. On a restauré dernièrement un métier qui faisait des cravates en 1930, qui s'appelle le Milanais, je ne sais pas pourquoi. Des cravates étroites. Et très courte. Et il vient une semaine, tous les 2 mois, pour restaurer, pour nous aider à redémarrer des vieux métiers. Et puis ensuite, on a racheté une entreprise qui est de l'Antriac, à côté du Puy-en-Velay, qui faisait de la dentelle étroite, dans la dentelle au fuseau mécanique. C'est le nom que ça porte.
Vous avez réussi à compter le nombre de métiers aujourd'hui que vous avez ?
Non, pas trop. Il y en a un peu plus de 2000.
Question piège. Et vous avez 8000 références au catalogue ?
Oui, c'est énorme, mais et c'est infini. Parce
des galons.
Des sangles, des galons, des rubans, des gros grains, des cordons.
Oui, c'est pour ça que je disais, on
cordes,
vous connaît forcément. Il y en a
dentelles,
forcément.
Des serpentines, des soutaches, il n'y a pas de QCM à la fin, vous inquiétez pas. et donc, en fait, c'est infini parce qu'on a 2000 couleurs et définitions. Donc les clients viennent choisir une référence et nous la customise. On ne fait rien sur catalogue en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on part de base.
À la demande.
Voilà, et rapidement. Parce qu'on travaille avec le luxe et le luxe a besoin de réactivité. Et on va même plus loin puisque 2 fois par an on fait une collection. On la présente en ce moment. C'est pour ça que je suis beaucoup sur Paris. Puis il y a les salons, il y a Première Vision.
Vous êtes
très
présent sur les salons.
Oui, il y a Première Vision là, dans quelques semaines. Là, je pars à Munich tout à l'heure pour le salon en Allemagne. Et donc, on fait une collection qui est une boîte à idées pour les clients. C'est-à-dire que plus que leur montrer ce qui existe, dans les tendances du moment, on vient leur montrer la collection.
Que dit notre coach, Catherine Testa ?
Alors, sur le site, vous indiquez que les métiers datent d'entre 1800 et 1900. Comment est-ce qu'on peut rester à être encore productif en utilisant ces anciennes méthodes ? Est-ce que vous ne devez pas faire face tout simplement à la concurrence chinoise ou autre ?
Alors, on a deux types de production. Il y a des métiers dits rapides et productifs, ce qui fait qu'on exporte en Asie. Et puis, vous avez ces métiers-là. On ne vise pas les marchés où la productivité est intéressante. On vient chercher le beau, le détail de la main. La précision. On va aller travailler sur ces métiers des fils beaucoup plus fins, des viscoses, des soies, des cotons fins. Et on va aller avec des grains beaucoup plus jolis. De plus, sur ces métiers, on fait des produits qu'on ne sait pas faire sur les métiers modernes.
Génial. Vous faites 400 nouveaux produits chaque année.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est 400 pour les deux collections, 200 par collection.
D'où ça vient ces idées nouvelles ?
On a 3 stylistes freelance et ensuite les métiers nous apprennent beaucoup. C'est-à-dire qu'on pousse les limites des métiers. Et on vient chercher de nouvelles choses, des idées qui viennent quelquefois des clients aussi. Parce que c'est 400 pour les collections, mais on fait quasiment 100 échantillons. Donc des toutes petites productions, on peut produire une paire de lacets ou 10 mètres de sangles que pour un client. Il y a les défilés bientôt, par exemple. J'ai encore des demandes ce matin pour les défilés.
Qu'est-ce qu'on vous a demandé ce matin ?
Alors ce matin, on m'a demandé pour des... Le luxe s'intéresse de plus en plus au code du sport. Et on m'a demandé des élastiques pour faire des sneakers avec des élastiques. Donc quelque chose qui emprunte vraiment au code du sport.
Et ça vous oblige à vous réinventer en permanence ?
Non, pas trop. C'est un produit habituel, parce qu'on travaille pas mal pour le sport. On m'a demandé aussi, on s'est doté d'une machine il y a 2 ans. On a été aidé par la région Pays de Loire. Et on a acheté une machine de sérigraphie qui permet d'imprimer en sérigraphie sur du cordon ou du galon. Et alors ça fait vraiment très sport. Et là ce matin on me l'a demandé aussi.
C'est la société Scholtes de fabrication avec un bel avenir devant elle, on l'espère. Combien de personnes travaillent avec vous aujourd'hui ?
50.
50 personnes.
On a doublé de taille en 8 ans.
En 8 ans, très belle réussite et bonne continuation à la société Scholtes de fabrication qui est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. Merci.
Merci. Il est 13h47. Europe 1.
Restez avec nous après les révélations sur les couches culottes la semaine dernière. Une des solutions s'appelle Hamac et c'est sur Europe 1 aujourd'hui.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour et aujourd'hui, elle va soulager bien des jeunes parents.
Oui, vous savez que ça a fait l'actualité la semaine dernière. Les couches pour les bébés contiennent de nombreuses substances à risque. Les autorités sanitaires ont donc lancé l'alerte. Elisabeth, des entrepreneurs ont trouvé la solution, ça s'appelle Hamac.
Oui, parce que les enquêtes récentes sur la présence de substances toxiques, allergisantes, cancérigènes dans les couches jetables pour bébés influent sur le marché de ces couches. Hein. Je vais vous donner un chiffre d'après 60 millions de consommateurs. Le marché est passé de 830 millions d'euros en 2017 à 750 millions d'euros aujourd'hui. Pourquoi ? Bien parce que certains parents ont décidé de revoir leurs habitudes et de se tourner vers les couches jetables, une solution qui comporte plusieurs avantages. Et c'est d'ailleurs ce que va nous décrire la fondatrice des couches Hamac.
Bonjour Florence Alluin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Hamac. Ça se passe comment pour vous ? Vous êtes leader, je crois, avec 40% de la part de marché des couches jetables. Il y a d'autres marques sur le marché. Quel est l'avantage finalement d'avoir une couche comme celle que vous nous avez amenée dans le studio d'Europe 1 ? Elles sont là à côté de nous. Vous pouvez la voir sur europe1.fr.
Oui, alors l'avantage de notre couche, c'est que c'est une couche lavable, mais nouvelle génération.
Oui.
On pense souvent à un produit archaïque.
Et on pense au linge,
voilà,
tout simplement.
On pense au linge. Et le principe est qu'on a une couche en tissu, et oui, non pas une couche en plastique, une couche en tissu à l'intérieur de laquelle il y a une poche très fine imperméable dans laquelle on met un absorbant, un petit matelas absorbant, et un voile jetable. Il y a une petite partie qui facilite l'usage, voilà, le caca
comme une lingette
à la poubelle
posée dessus. Hein,
voilà, on ne lave que ce qui, on ne lave pas les selles. Voilà.
Alors, je crois qu'un enfant a besoin d'en moyenne 6000 couches entre 0 et 2 ans. Est-ce que ces couches, vos couches, sont-elles vraiment plus économiques ? On en utilise déjà beaucoup moins ?
Oui, alors un enfant est changé en moyenne 5 fois par jour. Mmh. De sa naissance jusqu'à la propreté, à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et le budget moyen en couches jetables est estimé à 1400 euros pour un enfant, jusqu'à 2000 euros pour des couches plus jetables, plus haut de gamme. Mmh. Et le budget en couches lavables est plutôt autour de 600 à 900 euros. Alors, on peut rajouter... Si je rajoute... Je peux ajouter le coût de l'électricité et le lavage, si on veut.
Oui.
Ça va faire au total 1000 euros pour un enfant. Donc, il y a une économie qui peut être quasiment de moitié. Et dès le deuxième enfant, il n'y a plus d'achat à faire. On réutilise les couches. Les couches peuvent être utilisées sur, évidemment, 3-4 enfants.
Oui, parce que d'ailleurs, vous proposez même un service d'entretien de ces,
ouais,
couches. Mais c'est-à-dire,
ouais. Par exemple, on a des parents qui nous ont appelés parce qu'ils avaient... Ils en étaient à leur quatrième enfant. Bon, il y en a qui revendent aussi d'occasion les couches. On va pas jusqu'à
mais
avoir...
Mais c'est propre.
Oui, parce qu'on lave, tout simplement. Les produits sont lavés. Et on propose un service de réparation, puisque la petite poche imperméable, au bout d'un moment, elle peut être un petit peu défraîchie. Donc, on propose ce service de réparation pour encourager les parents à avoir un produit réutilisable et non pas, justement, jetable.
Et alors, donc, elles sont plus économiques du point de vue financier et par rapport à l'environnement, la couche jetable, ça se dégrade en plusieurs centaines d'années. Qu'en est-il de ces couches-là ?
On a pu faire le bilan, ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, le bilan de nos couches. On est moins impactant sur sur tous les impacts. C'est un produit durable. Et le fait même de laver en machine, on consomme 2 fois moins d'eau en lavable qu'en jetable, où il faut fabriquer de la cellulose qui est très consommateur d'eau.
Catherine,
est-ce qu'on les trouve en grande distribution maintenant, ces couches, à côté des couches classiques ou pas ?
Non, on les trouve principalement sur Internet, sur des sites qui encouragent une consommation plus responsable, plus bio, et dans des boutiques indépendantes qui favorisent aussi ce type de consommation, enfin d'utilisation plutôt.
Vous avez vu depuis l'apparition la semaine dernière justement un boom des ventes quand il y a eu l'alerte des autorités sanitaires ?
Oui, oui, tout à fait, puisqu'il y a des parents qui ça les stresse énormément et c'est compréhensible. Du coup, c'est l'occasion pour eux de se lancer, de tester, tout à fait. Oui, oui.
Alors moi, j'ai une question par rapport aux nounous. Est-ce que ça pose pas de soucis quand on a une nounou et est-ce que les nounous acceptent ? Enfin, comment ça se passe, cette transition-là ?
Il y a des nounous qui veulent pas du tout en entendre parler et d'autres qui acceptent. On a vraiment
les deux cas de figure.
Oui, et aussi, dans certaines régions, les poubelles sont de plus en plus payantes. Donc, c'est aussi une vraie question qui se pose de plus en plus, puisqu'il y a un coût à la déchetterie. Donc, il y a des nounous aussi qui réfléchissent, qui revoient un peu leur point de vue grâce à ça.
Elisabeth ?
Et dans les collectivités, dans les crèches aussi, c'est la même chose ? Comment c'est accueilli ? Il y a des crèches qui vous ont commandé des couches lavables ?
À Mac ?
Oui, nous, on a une centaine de crèches.
Ah, c'est
alors,
c'est
aussi bien en France que dans les dom-toms, parce que dans les dom-toms, la problématique des déchets est énorme. Donc, on a aussi des crèches voilà, à La Réunion. Et
vous avez commencé à sortir le modèle aussi pour le maillot de bain.
Ouais,
c'est ça,
bain.
Voilà, qui arrive pour l'été. Ça s'appelle Hamac, comme un hamac, tout simplement. C'est la solution si on veut arrêter de jeter les couches, jeter juste l'intérieur avec l'aisselle, le petit voile qui se glisse à l'intérieur. Merci d'être venue nous en parler.
Merci
Catherine d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se dit à demain.
À demain,
Elisabeth. Et vous avez vu qu'il y avait des chutes de température, le froid arrive. On va vous proposer de vous équiper français avec des pulls, des gants et des bonnets. À demain.